Mais pour les enchanteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, Apocalypse 21, 8. Ce n'est pas parce que ces choses manquent de puissance que tu dois rompre avec elles. Non, elles ont parfois une grande puissance. Quelquefois, leurs révélations sont vraies et elles prédisent des choses correctes. Leur connaissance est souvent vraie. Le problème n'est pas de savoir si elles sont vraies ou non. La question cruciale est de connaître leur origine. Toutes ces pratiques utilisent la puissance du diable. Le diable en est l'initiateur. Il les a inspirées et les soutient. Pour cette raison, tout ce qui vient d'elles est à rejeter, même si cela semble faire apparemment du bien. À Philippe, il y avait une servante qui avait un esprit de divination. Elle procurait à ses maîtres un grand profit par la divination. Cet esprit avait même reconnu Paul et Sylla et avait dit quelque chose de vrai les concernant. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut, Actes 16, 17. Ce qu'elle disait était vrai, mais la source de cette vérité était du diable. Paul aurait pu admettre cela dans l'espoir que ses paroles aideraient les gens à le croire, ainsi que son message. Il aurait pu se dire ce qu'elle dit est la vérité, cela ne fait pas de mal, quelle qu'en soit la source. Évidemment, il savait que la source était du diable et que cela ne pourrait jamais favoriser l'œuvre de Dieu. Rien de ce qui vient du diable ne peut favoriser l'œuvre de Dieu. Toutes les guérisons opérées par les sorciers, les guérisseurs, etc. viennent du royaume du diable. Elles ne peuvent jamais étendre le royaume de Dieu. Tu ne dois jamais te contenter de demander est-ce que c'est bon ou mauvais? Est-ce que c'est profitable ou non? Tu dois plutôt te demander est-ce que c'est Dieu ou Satan qui en est la source? Satan peut offrir des choses qui paraissent bonnes. Elles sont toutes à rejeter? Dieu peut offrir des choses qui paraissent mauvaises. Ces dernières doivent toutes être reçues avec action de grâce. Paul se retourna donc et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle ?» Et il sortit à l'heure même, Actes 16, 18. Paul savait peut-être qu'un tel acte leur causerait beaucoup de problèmes, mais néanmoins il le fit. Il ne voulait pas se compromettre. Les vrais serviteurs de Dieu proclamaient pratiquent toute la vérité, quel qu'en soit le prix. Il ne s'était pas dit « Je vais laisser cette fille tranquille pour que mon ministère n'en souffre pas ?» Non. Il chassa l'esprit et accepta la prison comme un merci bien mérité. La meilleure façon d'étendre le royaume de Dieu est de dénoncer toutes les œuvres du diable. Je t'en supplie, mets fin à toutes ces pratiques. L'exemple des Éphésiens. La Bible dit des chrétiens d'Éphèse, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force, Actes 19, 19-20. Nous pouvons apprendre de ces chrétiens les choses suivantes. 1. Ils ne cachaient pas les œuvres des ténèbres dans lesquelles ils étaient avant leur conversion à Christ. Ils les dénonçaient et les confessaient. 2. Ils détruisaient tout ce qui avait rapport avec leur vie de péché passé, sans tenir compte du prix que cela leur coûtait. 3. Ces choses étaient détruites, brûlées publiquement. Elles n'étaient pas jetées en secret. 4. Cette pratique avait pour conséquence la croissance spirituelle de l'œuvre du Seigneur. Toi aussi, tu ne dois cacher aucune des activités magiques dans lesquelles tu as été autrefois engagé. Dénonce-les et confesse-les. Apporte toutes ces choses devant l'assemblée des enfants de Dieu pour qu'elles soient détruites, quel que soit le prix qu'elles t'ont coûté. De cette manière, tu contribueras à l'avancement de l'Évangile. Tu n'as pas d'autre choix? L'idolâtrie. Dans les premiers et seconds commandements, Dieu dit à l'homme « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères, sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Exode 20, 3-5. L'idolâtrie inclut tout ce que l'on peut mettre sur le trône de son cœur, au-dessus, à côté, ou près de Dieu, que ce soit une personne, un système ou une philosophie. Dieu doit avoir la première place d'une manière absolue. L'idolâtrie inclut aussi le fait de se tailler des images, quelles qu'elles soient, images de Dieu ou de l'homme, ou tout ce qui peut représenter Dieu. Cela inclut le fait de se prosterner devant ces objets, de tailler ou de garder des images de Jésus et des choses semblables. Tout cela est de l'idolâtrie. Si tu t'attribues dans ta vie une place, où tu es prêt à faire ce que tu penses, ce que tu aimes ou ce que tu veux, au lieu de faire ce que Dieu veut, sache que tu es un idolâtre. Quiconque pêche délibérément, c'est-à-dire quiconque fait volontairement et consciemment ce que Dieu n'aime pas, s'est lui-même élevé à une place d'autorité absolue et devient alors sans aucun doute un idolâtre. Si ton travail, tes ambitions, ton éducation, ta femme ou ton mari, tes enfants, tes parents, le gouvernement, tes amis ou toute autre chose prennent la première place dans ta vie, tu es idolâtre. Pour savoir si tu adores quelque chose ou quelqu'un d'autre que Dieu, tu peux te tester facilement par les questions suivantes. 1. Dieu m'a-t-il demandé de ne pas garder quelque chose? Si tu gardes encore cette chose, alors que le Seigneur t'a demandé de t'en débarrasser, c'est que tu l'adores. 2. Cette chose est-elle un obstacle à ma marche avec le Seigneur, d'une façon ou d'une autre? Si elle bloque ta marche avec Dieu et que tu la conserves, alors tu l'adores. 3. Suis-je prêt à abandonner cette chose dès que le Seigneur me le demande? Si tu hésites, ou bien si tu ne veux pas l'abandonner, alors tu es en train d'adorer cette chose. Tout ce que tu adores est une idole. Il faut que tu en finisses avec cela. Les images, les statues, etc., de Dieu, de Jésus, de Marie ou de n'importe quel saint, les reliques des saints, gardées pour leur puissance de guérison magique, toute image taillée en bois, en métal ou en pierre, doivent être détruites. Tu ne peux pas en même temps te prosterner devant une image de Jésus et devant Jésus. Tous ceux qui se prosternent devant des images, ceux qui les fabriquent, les gardent, les distribuent ou les vendent, sont ennemis du Seigneur Jésus. Tout genou ne doit fléchir que devant Jésus seul. Les soi-disant photos de Jésus ou de tout autre personnage de la Bible sont des mensonges du diable. Aucune photo d'un personnage de la Bible n'a jamais été prise. Les photos que l'on dit être de Jésus sont le produit de pensées qui sont ennemies de Dieu. Que dire de la Vierge Marie qui intercéderait pour nous? Ce n'est qu'un mensonge du diable. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus. Tous les autres intermédiaires sont des abominations devant Dieu et devant tous ceux qui le connaissent. La Bible dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps 1 Timothée 2, 5-6. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés, reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux 9, 14-15. Tout ce qui est fait, même au nom de Jésus, par des hommes qui adorent des idoles religieuses et ont d'autres intermédiaires que Jésus, tout cela constitue des œuvres mortes. Lorsque ces hommes se repentent des œuvres mortes et viennent à Jésus et à lui seul, ils sont rachetés par le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas être racheté en même temps par Jésus et par la Vierge Marie. Il faut se débarrasser des idoles. Il faut se débarrasser de toutes les idoles afin que l'idolâtre puisse se tourner vers le Seigneur en esprit et en vérité et l'adorer comme il mérite d'être adoré. La Bible dit « Mais l'heure vient et elle est déjà venue » où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande Jean 4, 23-24. Dieu est esprit. Il n'est pas une statue ni une image. Il doit être adoré en esprit et en vérité et non par des chapelets et des mensonges. Comment faut-il se débarrasser des idoles? Prenons l'exemple de Gédéon. Gédéon avait été appelé par Dieu. Il connaissait Dieu. Dieu avait prévu de l'utiliser pour abattre les idoles. La Bible dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Juges 6, 25-27. Comment les gens réagirent-ils? Ils voulurent le tuer et Juges 6-30. Comment Dieu réagit-il? La Bible dit Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Juges 6, 34. Toi aussi, tu dois faire la même chose. Abat et détruis toutes les idoles. Ensuite, offre ta vie en sacrifice au Seigneur. Il va la recevoir et, en retour, il te remplira de son esprit. Veux-tu être un Gédéon moderne? Qu'est-ce que Dieu te demande d'abandonner? Qu'est-ce que Dieu te demande d'ébattre? Veux-tu obéir? Il faut rejeter l'influence des puissances de Satan. Tu as peut-être grandi dans une atmosphère où le diable était adoré d'une façon ou d'une autre? Un membre de ta famille ou un autre, surtout tes parents, ont peut-être pratiqué la sorcellerie ou été en contact avec des puissances sataniques d'une façon ou d'une autre? À cause de cela, tu es engagé malgré toi? Tu as même peut-être été consacré au diable ou baptisé en Satan? Un sorcier, un astrologue, etc. ont peut-être été consultés pour toi. Tu n'es donc pas libre. Pour te libérer de ces liens, je suggère que tu confesses tes propres péchés dans ce domaine, ainsi que les péchés de tes parents ou des membres de ta famille dans ce domaine de leur vie. Ensuite, en invoquant activement le nom du Seigneur Jésus, brise tous les liens, forts ou faibles, qui te lient à ta famille pour tout ce qui concerne ces engagements surnaturels. Dégage-toi spirituellement de cette famille et prends ta place dans la famille de Dieu. Dis au diable que sa puissance sur toi, qui était le fruit de ses activités, est maintenant brisée à jamais. Dis-lui qu'en brisant les engagements surnaturels de tes parents et en te couvrant du sang de Jésus, tu n'as plus part aux activités que peuvent effectuer tes parents en ton nom, dès maintenant et à jamais. En rompant ainsi avec le passé, tu acquiers une totale liberté devant le Seigneur Jésus. Ne crains point. Peut-être as-tu peur de jeter toutes les bagues, tous les charmes, etc., et d'abattre toutes les idoles dont tu sais que tu dois te débarrasser. Tu crains les réactions du diable. Il va sûrement réagir. Néanmoins, ne crains point. Le Seigneur Jésus, qui vit en toi, est plus fort que le diable. La Bible dit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est, en vous est plus grand que celui qui est, dans le monde » 1 Jean 4, 4. Le Seigneur Jésus a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire » Luc 10, 19. Toute la force de l'enfer est impuissante devant toi, car tu es entièrement sous la protection de Christ. Peut-être as-tu peur de la mort physique ou de la souffrance qui résultera de la destruction des idoles qui doivent être détruites? Ne crains point. Le Seigneur Jésus a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps » dans la GN Matthieu 10, 28. N'oubliez pas non plus qu'en ce qui concerne la vie physique, aucun mal ne t'atteindra sans la permission de ton Père Céleste. Tout ce qu'il permettra sera finalement une source de bénédiction pour toi. Pilate dit à Jésus « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché » Jean 19, 1011. Toi aussi tu dois rester en paix, étant sûr que personne ne peut avoir de pouvoir sur toi, à moins qu'il ne lui soit donné d'en haut. Ce que Dieu permet va finalement concourir à ton bien. Regarde à Jésus. Aie l'éternité en vue. Crains Dieu et fais ce qu'il veut. Dis-toi, le Seigneur est pour moi, qui sera contre moi et me vaincra? En finir avec les relations sexuelles passées? Avant de connaître le Seigneur, tu as peut-être eu des amis ou amies, des hommes ou des femmes qui n'étaient pas des partenaires autorisés par Dieu. Tu as peut-être eu un ou plusieurs partenaires sexuels réguliers. Tu as peut-être pratiqué la masturbation ou tu t'étais engagé dans les pratiques homosexuelles quelconques. Tu lisais peut-être des romans malsains ou tu pratiquais des attouchements douteux. Tu étais peut-être fiancé ou tu espérais te fiancer à un non-chrétien. Tu as peut-être continué à avoir des relations sexuelles avec le père ou la mère de ton enfant ou de tes enfants illégitimes. Tu te plaisais peut-être spécialement dans la pornographie. Tu dois en finir avec toutes ces relations et les arrêter immédiatement. La Bible dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens 6, 9-11. La parole de Dieu dit encore « Ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger. » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple du Dieu vivant et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, 14-18. Toi qui es chrétien, tu ne peux pas épouser un non-chrétien. Le non-chrétien appartient au diable. Tu appartiens à Dieu. Le diable ne peut pas se marier avec Dieu. Il y a un divorce éternel entre les deux. Peut-être es-tu fiancé à un non-chrétien, mais laisse-moi te dire que ta conversion a mis fin à ces fiançailles. Tu es le temple de Dieu. Comment peux-tu poursuivre des fiançailles avec quelqu'un qui est le temple du diable? Tu es pur. Le non-croyant est impur? La Bible dit « Ne touchez pas à ce qui est impur ». Tu es peut-être hanté par des relations sexuelles passées. Le diable peut te remettre en mémoire des relations sexuelles passées afin de te faire revenir aux choses que tu as abandonnées. Rejette ces suggestions. Tiens ferme à ton autorité au nom du Seigneur Jésus et rejette tous les liens qui te lient à un passé de péché. Brise le pouvoir de tous les péchés sexuels au nom de Jésus et tu verras que tu seras complètement délivré. S'il y a dans ta vie un non-croyant qui ne veut pas te laisser, prie de cette façon au nom du Seigneur Jésus, je t'ordonne, M, Madame, Mademoiselle, de sortir de ma vie maintenant pour que je sois libre pour de bon. Ayant pris cette position dans la prière et ayant refusé toute coopération avec le diable, tu connaîtras la victoire et la délivrance. Que Dieu te bénisse. Voici encore ce qui t'aidera à couper les liens qui te liaient aux gens indésirables, rembourse toute chose qu'il t'avait donné comme prix de ton corps. Par exemple, si on t'avait donné de l'argent, du matériel de ménage, des instruments de musique, etc., comme ton salaire pour t'avoir utilisé, tu dois rembourser ces biens quand tu as reçu le Seigneur Jésus. Si tu ne le fais pas, ces choses te rappelleront ton mauvais passé et le diable continuera à te tourmenter. Cela te coûtera, mais ta liberté totale en Christ est de loin plus importante que tout ce dont tu te débarrasseras. Voici une autre raison pour laquelle tu dois rembourser et te séparer de tout ce qui provient de ta vie de péché passé. Si tu ne le fais pas, tu ne pourras rendre aucun témoignage aux personnes qui te les avaient donnés. Elles ne prendront pas ta conversion au sérieux tant que tu n'auras pas remboursé le prix qu'elles t'ont payé pour ton corps. Si tu as reçu des biens qui sont à présent perdus ou ont vieilli à force de l'usage, tu dois calculer l'équivalent de ces biens et les payer en argent. C'est là le chemin d'une vie nouvelle. Finalement, tu dois cesser de visiter ces personnes. Ne dis pas « je dois aller les voir pour leur rendre témoignage ». Présente-les à un autre chrétien qui essaiera alors de les gagner au Christ. Si tu essaies de les gagner toi-même, tu peux te retrouver dans de nouveaux liens. En finir avec les professions qui déshonorent Christ. Si, avant ta conversion, tu travaillais dans une compagnie de tabac, tu dois cesser d'y travailler. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les gens se détruisent eux-mêmes en fumant. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Tu ne dois pas détruire le temple de Dieu par la cigarette et les maladies qui en découlent. Si tu le fais, Dieu te détruira. 1 Corinthiens 3, 16-17. Le tabac est mauvais pour toi et pour toutes les créatures de Dieu. tu ne dois contribuer d'aucune façon à sa production ou à son utilisation. Ainsi, arrête de vendre des cigarettes et cesse de travailler dans une usine de production de cigarettes. Demande à Dieu un autre travail qui pourrait l'honorer. La même chose s'applique à l'alcool. La Bible dit « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. » Quiconque en fait excès n'est pas sage. Proverbe 20:1. Arrête de boire de l'alcool. Arrête de servir de l'alcool et de contribuer à la production d'alcool sous n'importe quelle forme. La Bible dit qu'aucun ivrogne n'héritera du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6:10. Personne ne naît ivrogne. Tu peux donner à un homme le premier verre de vin qui fera de lui un ivrogne et le mènera sur le chemin de la ruine et finalement en enfer. Oseras-tu faire cela? Ainsi, ne bois pas d'alcool. Ne fréquente pas les bars ou les buvettes. Ce sont des manufactures du diable pour détruire la santé, la vie, la famille et la nation. Ne fréquente pas les boîtes de nuit. Ce sont des endroits que fréquentent les hommes et les femmes frivoles qui ont perdu le sens de leur vie. Ce sont aussi des manufactures du diable. Si tu travaillais dans une boîte de nuit, je t'en prie, arrête d'y travailler. Ce n'est pas un endroit pour toi? Ne va pas voir les films du monde. Imagine tout le sang versé, l'immoralité et les crimes qui sont montrés sur l'écran. Veux-tu remplir tes pensées de ces choses? Certainement pas. N'y va donc plus. Ne pousse personne à y aller. Ne travaille pas dans ce secteur. En mettant fin à toutes ces œuvres des ténèbres, aie confiance au Seigneur qui t'aidera à trouver le travail qu'il a en réserve pour toi et où tu pourras réellement le servir. Tu as besoin d'un travail? Il pourvoira à tous tes besoins. La Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:6-7. Plus loin encore, la Bible dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens 4:19. En finir avec les liens familiaux malsains. Tu appartenais à une famille terrestre avant ta conversion. Quand tu t'es converti, tu es né dans la famille de Dieu. Tu dois maintenant servir en priorité le Seigneur et sa famille. Cela ne veut pas dire que tu dois cesser de venir en aide aux membres de ta famille. Cela veut tout simplement dire que ta loyauté première se trouve maintenant ailleurs. En pratique, ceci veut dire que si les exigences de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes parents, etc. entrent en conflit avec celles du Seigneur Jésus, tu devras tout de suite obéir au Seigneur Jésus. Ceci n'est pas à discuter. C'est Jésus d'abord. La Bible dit de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Luc 14:25-26. Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Matthieu 10:24-37. Aime ta famille, mais que ta première loyauté soit envers le Seigneur Jésus et la famille de Dieu. Un proverbe courant dit « tel père, tel fils ». Nous avons tendance à traîner avec nous des traits de caractère familiaux. Certains de ces traits sont des qualités et d'autres sont des défauts. Certains de ces caractères familiaux sont par exemple la paresse, l'indiscipline, la gloutonnerie, l'agitation, la colère, le désordre. Tu dois éliminer ces défauts de caractère que tu as hérités de tes parents ou de l'environnement dans lequel tu as été élevé. Réclame la puissance du Seigneur et sois délivré de tout cela. Il y a aussi des problèmes héréditaires comme la calvitie, les cheveux blancs précoces, l'anémie, etc., que l'on a hérité des parents, sans que l'on y soit pour rien. On doit briser tous ces liens au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Esaïe 53:5. Quand le Seigneur Jésus est monté sur la croix, il a pris sur lui toutes nos maladies, toutes nos douleurs et toutes nos infirmités et les a clouées à la croix. Il a pris sur lui à la croix les gènes des anémies, comme tous les gènes indésirables. Nous pouvons être libérés de tout ceci, cela fait partie de notre héritage. Nous devons aussi réclamer notre guérison des maladies et des infirmités au nom de Jésus. La santé parfaite et la vigueur parfaite appartiennent en Jésus. En finir avec les traditions sociales sans Christ, il y a des traditions sociales qui lient les gens et les rendent esclaves. Certaines de ces traditions sont par exemple les anniversaires coûteux, les funérailles, les cadeaux coûteux pour des fêtes. Ce sont des traditions purement mondaines et inutiles. Tu ne dois pas te laisser aller à les pratiquer. Conserve-toi pur pour le Seigneur. Sois libre pour le servir et le servir lui seul. Quelques principes de conduite pour t'aider à décider si tu dois t'engager ou non dans une pratique quelconque, pose-toi les questions suivantes. 1. Qui est l'auteur de cette pratique? Est-ce Dieu ou Satan? Si c'est Dieu, alors il est possible que tu puisses t'y engager. 2. Qui cette action va-t-elle glorifier? Dieu, Satan ou le moi? Ne t'y engage pas si cela va glorifier Satan ou le moi. 3. Va-t-elle me placer dans des conditions où je pourrais être tenté? Si c'est le cas, abstiens-toi de cette pratique. 4. Va-t-elle m'aider à grandir en Christ ou bien va-t-elle me freiner? Ne fais que ce qui t'aidera à grandir. 5. Va-t-elle aider les autres à voir Christ en moi? Sinon, ne t'y engage pas, car tu es un ambassadeur de Christ. 6. Les autres vont-ils faire la même chose et peut-être tomber dans le péché, quoique toi tu puisses faire la même chose sans tomber dans le péché? Si cette pratique risque d'entraîner la chute d'un jeune croyant, alors, par amour pour lui, ne t'y engage pas. 7. Va-t-elle m'entraîner dans une habitude dont je ne pourrai pas me libérer facilement? Si c'est le cas, ne t'y engage pas. 8. Est-ce le bon moment pour pratiquer cela? Une chose peut être bonne quand on l'accomplit à un moment particulier, mais mauvaise à un autre moment. Il y a un temps pour toute chose, Ecclésiaste 3, 1-8. Finalement, c'est le Saint-Esprit qui te guidera. Regarde à lui. Le Seigneur Jésus a dit « Lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16, 13. Très important. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je t'encourage à le recevoir. Voici quelques étapes à suivre pour t'aider. Admets que tu es un pécheur, par ta nature et par tes œuvres, et que, par tes efforts personnels, tu n'as aucun espoir d'être sauvé. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui en pensée, en parole et en acte. Par une prière sincère, confesse-lui tes péchés l'un après l'autre. Ne mets aucun péché dont tu te souviennes. Détourne-toi sincèrement de tes péchés et abandonne-les. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie, mais si tu es sincère, il te donnera la force d'arrêter de pécher. Crois que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul ne vient au Père que par moi, Jean 14, 6. La Bible dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, 1 Timothée 2, 5-6. Il n'y a de salut en aucun autre en dehors de Jésus, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, Actes 4, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, Jean 1, 12. Considère cependant le prix à payer pour suivre Jésus. Il a dit que tous ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Cette renonciation implique la renonciation aux intérêts égoïstes, qu'ils soient financiers, sociaux ou autres. Jésus veut aussi que ses disciples se chargent de leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans une nouvelle direction par lui? Es-tu disposé à souffrir et même à mourir pour lui si c'était nécessaire? Jésus n'a rien à faire avec ceux qui s'engagent à moitié. Il exige un engagement total. Il ne pardonne qu'à ceux qui sont prêts à le suivre à n'importe quel prix et c'est eux qu'il reçoit. Pense-y et calcule le prix. Si tu es décidé à le suivre à tout prix, alors tu as encore quelque chose à faire, hein? Vite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Veux-tu faire la prière suivante ou une prière personnelle selon l'inspiration du Saint-Esprit? Seigneur Jésus, je suis un pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, ô Sauveur, et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant même et donne-moi la vie éternelle à l'instant même. Je te suivrai à n'importe quel prix, comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner toute la force dont j'ai besoin. Si tu as fait cette prière sincèrement, Jésus t'a exaucé, t'a justifié devant Dieu et a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. Je t'invite à m'écrire afin que je prie pour toi et que je t'aide dans ta nouvelle marche avec Jésus-Christ.